J'ai juste une question préalable. Personnellement, je suis en STI, sciences techniques industrielles. Hein. Au préalable, je n'ai pas regardé les textes relatifs au CCF en EPS. Mais ma question est la suivante. Sont-ils les mêmes que pour les autres épreuves enseignement général, enseignement professionnel? Parce que je pense que c'est un préalable. Personnellement, c'est un préalable qu'il me faut pour bien comprendre certaines de vos conclusions.
Merci. Ce que définissent les textes, ce sont les épreuves. C'est-à-dire que... je ne vais pas vous donner d'exemple en STI, parce que je vais être très malheureuse, mais je ne vais pas y arriver, parce que je ne connais pas du tout la discipline. Mais elle dit qu'il faut qu'il joue, par exemple, en badminton. Vous avez vu un badminton. Donc, les élèves doivent être par groupe de niveau. Et ils font trois matchs de tant de points, etc. Et ils sont évalués sur la façon dont ils construisent le point. S'ils sont capables de construire l'alternance, long, court, lob, drive, enfin tous les points, voilà. Et donc ça, ce sont... et il y a une attribution de points, par exemple, sur la performance, c'est-à-dire les résultats des matchs. Je vous dis quelque chose qui n'est... je vous le dis au hasard, hein. J'ai pas le texte et en tête en particulier. Donc sur la performance, il y a 4 points. Sur la stratégie de jeu, il y a 7 points. Sur les savoir-faire sociaux, il y a 6 points. Alors on définit ce que sont les savoir-faire sociaux en badminton et en EPS. C'est savoir arbitrer, c'est savoir... je vais pas plus loin. Mais donc ces affectations de points sont définies par les textes. Autre chose, il y a 3 CCF au cours de la dernière de l'année terminale. Alors certains CCF sont échelonnés sur sur plusieurs années. Là, c'est sur une année. Alors je ne sais pas si ça ressemble à votre CCF. D'accord. Donc c'est un peu ce qui il me semble que c'est un peu comme ça en histoire géo pour le CAP. Enfin, je
connaissais pas non plus le PS. Je suis moi aussi en sciences techniques industrielles, donc je vais rejoindre un petit peu ce que disait mon collègue. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on enlève une ambiguïté sur cette histoire de CCF entre l'EPS et le reste des disciplines enseignées au lycée professionnel. Moi, ce que j'entends là, c'est plus, ça ressemble plus à une épreuve ponctuelle au cours de la formation, on va dire, et peut-être 3 épreuves ponctuelles sur la classe terminale, plutôt qu'une certification en cours de formation, où normalement on devrait pouvoir proposer une certification aux seuls élèves qui ont atteint les compétences qui pourraient leur permettre d'être validé. Donc là, j'ai l'impression qu'on aborde un groupe classe dans son entier.
Oui, complètement.
Donc on peut supposer que tous les élèves ont atteint le même niveau de compétence. Et là, ça me gêne un petit peu parce que justement, c'est pas le cas. En sciences et techniques industrielles, on va essayer plutôt de valider les compétences des élèves au fur et à mesure où ils avancent dans ces compétences. Et en fait, on va certainement pas faire des preuves ponctuelles avec des convocations ou des cartes d'identité. Enfin, ça me semble complètement extraterrestre. Ça sera vraiment dans le cours de la formation. L'élève, à la limite, ne verra pas la différence entre le jour où il va être évalué en CCF et le TP du jour précédent ou de la semaine précédente, puisque c'est vraiment dans le cours de sa formation. C'est ce jour-là où il va être validé, tout simplement. Mais il n'y aura pas de différence pratique.
C'est-à-dire que c'est enfoui dans le reste,
c'est pas enfoui, c'est très apparent.
Comment faites-vous pour que ce soit apparent?
C'est un état d'esprit.
Donc vous êtes dans l'esprit du texte.
On est justement dans l'esprit du texte. L'évaluation, elle est quasiment permanente en fait. L'auto-évaluation est aussi quasiment permanente. Enfin, c'est l'idéal évidemment. Ça se passe pas toujours comme ça. On travaille au quotidien pour arriver à ça. Mais en tout cas, certainement pas une épreuve ponctuelle avec une convocation et une institutionnalisation comme ça.
Voilà. Oui. Donc je vous ai pas donné effectivement la définition. Ce sont des épreuves ponctuelles disséminées tout au long de la formation, mais c'est des épreuves officielles, quoi. Les enseignants d'EPS doivent retourner à leurs inspecteurs les dates à laquelle ils font passer les CCF. C'est une obligation institutionnelle.
15 jours à l'avance minimum.
Voilà, donc ça relève de ce fonctionnement-là.
C'est le texte c'est le texte officiel. Oui. Hein, donc,
voilà. Donc effectivement, je pense que derrière le mot CCF, il y a des traductions différentes. Et donc, j'aimerais comprendre comment ça se passe chez vous.
Je suis PLP anglais lettres et donc cette année pour la première fois je vais organiser le CCF d'anglais LV1 pour mes terminales bac pro. Donc je précise qu'il y a un seul CCF prévu en bac pro en langue vivante 1 et langue vivante 2, qui est maintenant un oral, et le professeur qui a la classe est tenu de faire passer tous ses élèves en CCF. Je voudrais savoir, enfin je fais un peu ma candide, j'ai un peu une idée, j'ai une réponse en tout cas, mais je pose la question quand même, quelle est la justification pédagogique à l'origine dans la réforme du passage de l'examen terminal au CCF? Quel est l'intérêt, quel est l'atout d'un CCF par rapport j'ai une idée, j'ai une réponse, mais j'ai envie de poser la question.
Alors moi je peux vous répondre par rapport à l'histoire de la discipline EPS. Je ne peux pas vous répondre, enfin peut-être que Asie Gélab ou Vincent Trouget pourront peut-être. Le CCF se généralise complètement. C'est vrai qu'au départ du CCF, c'était pour viser une meilleure réussite des élèves. Moi, ce que je peux observer en EPS, c'est-à-dire qu'on est passé effectivement d'un CCF qui se passait au cours de l'enseignement, qui à mon avis ressemblait un peu à ce que vous décrivez, sauf que c'était l'enseignant qui décidait, c'était pas l'élève qui le sollicitait. Dans une logique de justice scolaire, pour faire en sorte que tous les élèves soient notés de la même façon sur tout le territoire français. Ce sont les arguments de mise en place de ce nouveau texte-là. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des épreuves. Alors, je vais vous décrire quelque chose que vous connaissez parfaitement. Il y avait dans certains établissements des épreuves qui étaient, j'allais dire, avec des critères d'évaluation plus faciles et qui permettaient aux élèves de réussir. Et puis dans d'autres établissements, il y avait des épreuves qui étaient beaucoup plus difficiles. Et voilà, complètement non, mais moi je ne prends pas parti, je vous explique. C'était la logique d'uniformiser je pense que la phrase est passée un peu inaperçue quand j'ai parlé de scolarisation de la discipline. C'est pour faire en sorte que tous les élèves vivent le même programme en EPS. Donc parce que ceux qui sont à côté de la mer n'ont pas les mêmes activités que ceux qui sont à la montagne ou dans la banlieue lyonnaise. Donc il y a tout ce travail-là qui a été fait. Et dans cette logique d'uniformisation, on a uniformisé les épreuves.
Oui, je voulais juste dire, rajouter, c'est une réponse à la question qui vient d'être posée, c'est que cette histoire des deux types d'évaluation, comme tu viens de le dire un petit peu, remonte très loin. Hein. Il faut rappeler que historiquement, dans les mouvements pédagogiques qui se fondent dans l'entre-deux-guerres, hein, qui sont le GFEN, le CMEA, etc., qui existent toujours, hein, qu'on retrouve beaucoup derrière les cahiers pédagogiques, il y a l'idée de contester la valeur de la note sur l'examen final, parce que toute une série d'expériences montrent que la même copie notée par des profs différents, ça remonte aux années, les premières expériences de ce type remontent aux années 30, elles sont faites aux États-Unis. L'écart type de points est d'au moins 3,5 à 4 points. Hein. Alors ça dépend un peu des disciplines. En philo, ça monte à 5 points, en maths, ça descend à 2, mais il y en a toujours. Et les écarts maximum peuvent aller jusqu'à 8 ou 10 points sur la même épreuve. Donc l'idée qu'il y a un arbitraire dans les épreuves d'examen il y a un arbitraire dans les notations, et que donc le contrôle continu est le moyen de vérifier à la fois que les élèves travaillent de manière régulière et qu'on évalue bien ce qu'ils acquièrent au fur et à mesure de la formation d'une manière plus objective, en tenant compte de l'ensemble de leur travail et en évitant ce risque de l'évaluation arbitraire. Donc ça, c'est un débat qui remonte aux années 30, qui est porté beaucoup par les mouvements pédagogiques. On le retrouve encore dans les cahiers pédagogiques aujourd'hui, hein, de manière explicite. Et donc, c'est aussi ça qui est derrière. Après, comme souvent ces thèses de pédagogie qu'on va appeler pédagogie libérale ou progressive, peu importe, sont reprises dans un contexte, évidemment, tout le monde sait bien que quand on fait du CCF, ça coûte beaucoup moins cher que d'organiser des examens de fin d'année avec tout ce que ça suppose de mise en place. Il faut savoir que le ministère de l'Éducation nationale, pratiquement la moitié des fonctionnaires du ministère travaillent à l'organisation du baccalauréat. Hein. Je me souviens qu'il y avait eu un livre là-dessus écrit de manière assez humoristique par un directeur du ministère. Donc on retrouve évidemment cette contrainte-là. Dans l'enseignement technique, ça a été en plus très tôt valorisé parce que ça permet de mesurer plus facilement des compétences. Or, dans l'enseignement technique, on a cherché très tôt à mesurer les compétences des élèves. Donc il y a trois logiques comme ça qui se mettent en place. Donc il ne faut pas avoir un regard exclusivement critique sur cette question du... Oui, alors après, les conditions matérielles de mise en œuvre, etc. Voilà. Non, voilà, je voulais juste faire cette petite précision.
Alors, pendant que le micro tourne, c'est vrai que la question de la question de la notation, pour appuyer ce que vient de dire Vincent Troget, il y a tous les travaux de l'IREDU aussi et de Pierre Merle qui montrent qu'effectivement, avec un même barème, des copies qui sont corrigées n'aboutissent pas, même avec un barème commun, quoi, n'aboutissent pas au même résultat. Et ce qui prône, lui, l'outil, c'est que les correcteurs travaillent ensemble sur ce barème à partir de matériel, enfin de copies ou de choses, des choses à évaluer, et c'est par une confrontation sur le barème, j'allais dire la socialisation au barème,
Oui, enfin, en fait, je vais aller dans le même sens. Ce que j'ai pu constater depuis 2-3 ans que j'ai quitté la formation initiale, c'est qu'en formation continue, on ne se pose pas la question. Il n'y a que du CCF. Parce qu'on va pointer les compétences. On va pointer ce qui est... on va valoriser par l'évaluation et on ne va pas sur une épreuve finale ou ponctuelle où on ne fait que pointer finalement ce qui n'a pas pu être maîtrisé par le formé. Quoi. Voilà, c'est une approche, à mon avis... complètement opposé en termes de pédagogie, quoi. Et donc l'évaluation en découle. Il y a vraiment une opposition. Et le simple arbitrage financier, finalement, sur le plan pédagogique, n'est pas très intéressant, même si ce que vous dites n'est pas certainement pas faux.
Oui, donc je voulais rajouter que ce qui se passe au niveau des lycées agricoles, donc il y a le choix au niveau des établissements, soit de faire en épreuve terminale, soit de faire en CCF. Donc pour notre établissement, donc le lycée agricole de Sibins, qui se situe dans l'Ain, donc on a choisi depuis des années, de faire le CCF. Système de CCF, ça veut dire que pour les formations, il y a une partie des modules ou des matières qui vont être passées en CCF uniquement. D'autres, une partie à 50% en CCF et l'autre en examen terminal. Donc ce qu'on a constaté de bénéfique dans ce système, c'est pour ça qu'on y adhère et qu'on ne revient pas dessus, c'est que les élèves réussissent mieux. Voilà, parce que il y a un suivi, il y a une sorte de suivi et de progression sur l'année qui fait que il s'attelle à cette tâche de dire il va y avoir des situations d'évaluation, donc il faut que je prépare le CCF. Et ils sont très conscients de ça, notamment dans les filières professionnelles. C'est un peu plus flou dans les filières technologiques, mais dans les filières professionnelles, c'est très ancré dans les mentalités et dans le projet professionnel et dans l'envie de réussir et de progresser. Et effectivement, à l'heure actuelle, ce serait impossible au niveau de l'établissement de revenir là-dessus et dire finalement on passe en épreuve terminale parce qu'on en a ras-le-bol de fabriquer des CCF, parce que ça prend beaucoup de temps. Le choix d'un sujet, notamment pour les BTS, ça peut prendre 2 jours. Surtout que quand un élève est absent, on nous demande de faire repasser une épreuve de CCF spécialement pour cet élève. Et donc comme le CCF n'est pas un examen terminale comme le baccalauréat par exemple en épreuve terminale, eh bien c'est beaucoup plus flou là-dessus, et donc un élève qui passe le code de la route, il faut lui faire refaire une épreuve par exemple. Donc même si les enseignants des fois en ont marre, puisqu'à l'agriculture je vous rappelle les CCF ne sont pas rémunérés, voilà, bon, je précise, je sais pas comment ça se passe ailleurs.
Non, mais...
Ils ne sont pas rémunérés du tout pour le travail, la somme de travail que ça représente, hein, je veux dire.
Oui, non, mais...
Eh bien, en fait, les professeurs, par conscience professionnelle et aussi au vu des résultats, préfèrent maintenir ce système, comme dans beaucoup d'établissements agricoles, parce que ça marche au niveau des résultats. Bon, je me suis peut-être un peu mal exprimé, c'est pas du bachotage. Voilà. Au niveau des référentiels, il y a des jurys de validation. On a des jurys de validation a posteriori. Donc on n'a pas intérêt de se planter, je vous le dis. Hein. Donc les jurys de validation a posteriori sont là pour constater si on a respecté le référentiel et comment les modalités de l'épreuve, comment ça s'est déroulé, etc. On n'a pas droit à l'erreur en quelque sorte. Hein. C'est un peu une épée de Damoclès. Quand je dis la préparation CCF, c'est au niveau du mental. Ils sont dans une dynamique de progression et d'acquisition des connaissances par rapport à des situations d'évaluation qui vont jalonner la formation. Et pour répondre au quand est-ce qu'on place les CCF, en fait, il y a un ruban pédagogique au début de l'année dans lequel on doit inscrire la période à laquelle on va faire le CCF. Par exemple, si on dit que c'est le mois de mai 2013, ce sera mai 2013. On n'aura pas le droit de le changer. Mais après, il y a une petite marge de manœuvre qui fait qu'on peut rectifier, effectivement, parce que c'est plus souple qu'un examen comme le bac. Le bac doit se fixer de telle date à telle date, tandis que nous, il y a une petite mobilité à ce niveau-là, une petite souplesse. En plus, si ensuite on généralise CCF, ce serait ingérable de dire à l'avance, donc ça devient un examen terminal, c'est plus la même chose. Donc voilà. Bon, en gros, c'est ça.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qui fait débat, c'est pas CCF ou examen ponctuel, c'est les modalités du CCF. C'est-à-dire, est-ce que le CCF, on est dans ce que vous avez dit tout à l'heure et que recommandent certains inspecteurs, je pense, pour ce qui est de mon établissement, l'inspecteur de maths sciences a dit au professeur de maths sciences, vous faites passer un élève quand il est prêt. C'est-à-dire que pendant votre séquence, vous avez repéré qu'un élève était prêt, donc vous lui faites passer le CCF. Alors, est-ce qu'on est en épreuve ponctuelle qui est un examen, une sorte d'examen un peu déguisé, ou est-ce qu'on est vraiment dans l'esprit du CCF? Et là, je pense qu'il y a au moins une certaine ambiguïté de l'administration, de l'institution par rapport à ça, ou au moins des consignes qui sont parfois contradictoires.